Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bien sûr, bonne année. Mais avant toute chose, je voudrais rendre hommage à Colette Berthoud qui est décédée le 25 décembre. Colette a animé Priorité Santé pendant 27 ans. 12 ans après, lors de reportages en Afrique, encore au mois de novembre, on me parle d'elle, de son professionnalisme, de son humanité. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à réagir sur Facebook et nous pensons beaucoup à sa famille et à ses proches. Le début d'année, vous le savez, c'est la période des bonnes résolutions, dont pour de nombreux fumeurs, cette injonction, cette année, c'est sûr, j'arrête de fumer. Mais, car on le sait, le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Dans le monde, une personne sur sept fume quotidiennement, ce qui provoque 6 millions de décès par an, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs qui sont en fait victimes de ce qu'on appelle le tabagisme passif. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, et si rien n'est fait, on estime qu'un milliard de personnes vont mourir à cause du tabac au cours du 21e siècle. On constate ces dernières années une augmentation du tabagisme féminin, des maladies longtemps réservées aux hommes, telles que le cancer du poumon ou encore des maladies cardiovasculaires, sont en forte augmentation chez les femmes. Les fumeuses s'exposent également à des pathologies spécifiques sur le plan gynécologique par exemple, avec un risque particulier pendant la grossesse sur le développement du fœtus. En France, en 10 ans, la mortalité due au tabac chez les femmes a été multipliée par 3. Mais on a beau savoir tout cela, arrêter de fumer reste difficile. Nombreux sont ceux qui essaient, mais rechutent. Alors comment arrêter de fumer? Les patchs ou la cigarette électronique peuvent-ils être utiles? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Bertrand Dotzenberg, qui est pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, président de l'Office français de prévention du tabagisme, et il a publié récemment l'e-cigarette pour en finir avec le tabac chez XL Édition. Et si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Alexandre Kouassi-Boko, qui est pneumologue au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, on retrouvera Stéphane Besançon, qui est directeur général de l'association Santé Diabète à Bamako, au Mali, et qui désormais, tous les lundis, nous donnera des bons conseils de nutrition. Professeur Dotzenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour démarrer cette année avec nous. Vous êtes satisfait, vous nous l'aviez dit à l'époque, de la loi anti-tabac en France du mois de juin. Mais début janvier, il n'y a pas eu de hausse du prix des cigarettes, ce qui était pourtant habituel. Pourquoi cela vous inquiète-t-il? Et qu'est-ce qui se cache derrière, je dirais?
En France, d'habitude, le prix du tabac, les taxes du tabac étaient indexées sur le prix de vente de l'an dernier. Donc là, on a supprimé l'indexation des taxes du tabac sur le prix de vente de l'an dernier. Ça, c'est un amendement qui a été écrit par la compagnie Philip Morris, une compagnie de cigarettes, qui a été donné aux députés de la majorité, soutenu par le ministre du budget français, donc qui soutient des amendements écrits de la main de Philip Morris.
Et comment vous savez que ça a été écrit réellement par
Philip Morris? Parce qu'on a vu les amendements avant qu'ils arrivent chez le député, on suit un petit peu les choses. Et le ministre du budget dit que c'est pas de sa faute, c'est l'Élysée qui lui demande de faire ça. Et c'est quelque chose qui va faire 180 millions de recettes de moins pour l'État, qui sont laissées aux cigarettiers. Pourquoi l'État français en 2015, alors qu'il y a quand même des problèmes de budget, laisse 180 millions de l'argent qu'il pourrait avoir pour le donner aux grands cigarettiers? C'est un grand, grand mystère.
Et alors pour justement, quelqu'un. Pourquoi? Vous avez un début de réponse du pourquoi?
La seule façon d'expliquer ça, c'est la puissance des lobbies du tabac qui influence l'État à un niveau tout à fait inadmissible. Il y a une convention cadre contre le tabac au niveau mondial qui doit prévenir ça avec un article 5.3 qui est très précis. Et la France ne respecte pas ce traité international qu'elle a signé en laissant le ministre du budget soutenir un amendement écrit par une compagnie de tabac. Il y a une démonstration évidente de cette compromission. Il y a quelques députés qui s'en levaient compte, mais ils n'étaient pas majoritaires.
Et ça montre bien l'influence des cigarettiers. Ça paraît quand même encore aujourd'hui très étonnant et très peu dénoncé.
C'est très peu dénoncé parce que vous avez bien dit que le tabac tue, mais le tabac ça ruine. Le tabac ça ruine la France, ça rapporte 15 milliards de taxes, mais ça coûte 45 milliards et ça ruine tous les foyers. Quelqu'un qui fume, quand une ou deux personnes fument dans un foyer en France, ça coûte 200-400 euros, et c'est les mêmes rapports de prix dans tous les pays. Donc le tabac c'est quelque chose qui vous ruine. Arrêter de fumer c'est quelque chose qui vous enrichit, qui préserve votre entourage, qui diminue la pollution, qui vous fera bien plus vieux, qui pollue moins la planète, et c'est quelque chose qu'il faut faire en ce début 2015.
C'est ça. Alors c'est une bonne idée justement d'en parler au début du mois de janvier, c'est la période où on prend des bonnes résolutions. Est-ce que de fait, par exemple, c'est un moment où vos consultations augmentent, vous avez beaucoup de gens qui d'un seul coup veulent venir?
Il y a plus de gens qui s'arrêtent de fumer en France le 1er septembre et le 1er janvier, c'est la date des bonnes résolutions. Et on a envie, parce que la plupart des fumeurs adultes, ils voudraient être non-fumeurs, mais ils n'y arrivent pas, ils ont des difficultés. Il y a un petit débat en France sur le rôle de la motivation. Certains pensent qu'il faut motiver les fumeurs pour qu'ils s'arrêtent. Moi, comme médecin, je pense que je peux aider tous les fumeurs, même ceux qui ne sont pas motivés du tout. Et avec les médicaments qu'on a maintenant, les patchs ou la cigarette électronique, etc., on arrive à faire sortir les gens du tabac avec une motivation, même faible, mais motivé, c'est mieux.
Et alors justement, alors on va voir comment. Ce qui est intéressant, c'est que vous le dites, hein, l'essentiel des fumeurs ont envie d'arrêter de fumer. C'est très net sur les messages qu'on a eus sur Facebook. On a par exemple Amadou qui dit « Je fume depuis 10 ans et j'ai tout fait pour abandonner, mais en vain, j'en ai marre du tabac, mais je ne sais plus quoi faire, je suis assez confus. » Il y a Lems qui nous appelle, qui nous avait laissé un message de Dakar au Sénégal et qui dit « J'ai presque 23 ans, je fume depuis 4 ans. En général, je me fixe des dates où je prends la décision d'arrêter définitivement, mais je suis aussitôt rattrapée par mon instinct de fumeur. Je ne sais plus comment m'y prendre. Quels conseils pouvez-vous me donner pour abandonner pour de bon la cigarette ?» Donc c'est bien ce qu'on va voir tout au long de cette émission. On a Modibo qui nous appelle de Bamako au Mali. Modibo, bonjour.
Oui, bonjour.
Et je crois que vous avez justement envie d'arrêter de fumer.
Effectivement. Je suis Modibo, je suis à Bamako. Je fume pratiquement il y a 18 ans. Et voilà, ma question c'est de savoir est-ce que le sport peut vraiment aider à diminuer les risques de la cigarette.
Et vous avez là essayé de diminuer, d'après ce que j'ai pu comprendre dans le message que vous avez laissé, vous avez essayé de diminuer le nombre de cigarettes, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait.
Et vous avez déjà plusieurs fois essayé d'arrêter?
Oh, pas vraiment. Il y a l'envie qui est là, mais voilà, à chaque fois que je décide d'arrêter, avant la fin de la journée, voilà, je recommence à fumer.
Ouais. Et là, début 2015, voilà. Vous vous dites que c'est une bonne façon de démarrer l'année, c'est ça?
C'est ça, effectivement.
Alors,
comme le docteur le disait, j'avais décidé le 1er janvier d'arrêter. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu encore le faire.
Vous n'avez pas pu encore le faire. Vous avez peut-être à décider le 5 janvier d'arrêter. Alors, professeur Dotzenberg, quel conseil vous pouvez donner à Modibo?
D'abord pour le sport c'est bon, fumer c'est mauvais, mais le sport n'élimine en rien les effets toxiques du tabac. Donc il faut faire du sport, faut pas fumer, mais c'est deux choses tout à fait indépendantes. En ce qui concerne la réduction, quelqu'un qui fume dès le matin, dès le réveil, et quelqu'un qui est drogué au tabac, et la seule solution c'est d'arriver à zéro. Donc la réduction peut être un pas vers l'arrêt, mais l'objectif c'est assez rapidement l'arrêt total. Et dès qu'on a un arrêt total du tabac, alors les récepteurs nicotiniques dans le cerveau, après une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, vont s'endormir et trois mois, ils vont revenir à la normale, on n'aura plus envie de fumer. Donc ce qui est terrible quand on arrête et puis qu'on n'a pas de substitut nicotinique parce que c'est pas accessible, c'est qu'on a un fort envie de fumer pendant 15 jours, 3 semaines, et un assez fort envie de fumer jusqu'à 3 mois, et puis après l'envie s'endort. Ce qu'il faut avoir comme objectif...
Pardon, je vous interromps, ça veut dire que cette dépendance, finalement, elle ne dure pas si longtemps que ça?
La très très forte dépendance, c'est une semaine, 15 jours, où on est vraiment énervé, on a envie de tout casser, et après, jusqu'à 3 mois, on a cette envie. Après 3 mois, cette envie est endormi, mais peut se réveiller à n'importe quelle occasion. Et l'objectif pour quelqu'un qui a fumé le matin au lever, c'est plus jamais une cigarette une fois qu'il aura arrêté de fumer. En reprenant une, il va rechuter.
Mais et même 10 ans après, on a régulièrement des
histoires. Même 10 ans, 20 ans, 30 ans après, la mémoire du tabac est toujours là. Quand on a fumé, quand on était adolescent, on a dans sa tête trop de récepteurs à nicotine qui sont là à vie. C'est fichu à vie. Donc on guérira jamais. On sera en rémission du tabagisme. On sera un fumeur qui fume pas, ce qu'on appelle un ex-fumeur, mais on sera pas un non-fumeur. Il n'y a pas de vraie guérison. Il y a un endormissement de la maladie, mais qui est là,
qui est prête
à surgir au moindre refus.
Et alors pour Modibo, donc vous conseillez à vos patients les substituts nicotiniques, c'est ça?
Ben, on leur propose de prendre de la nicotine d'une autre façon que la cigarette. La cigarette fait arriver la nicotine très brutalement au niveau du cerveau, et chaque cigarette donne envie de fumer la suivante. En apportant la nicotine de façon très progressive, comme avec des patchs ou avec éventuellement la cigarette électronique en fume toute la journée s'il y en a, on a un apport très régulier de nicotine sur la journée et l'envie de fumer va diminuer jusqu'à un certain niveau. Donc il faut prendre de la nicotine autrement si on veut avoir moins de troubles. Mais si on regarde ce qui se passe en France, même où les produits, le Champix, les substituts nicotiniques, les cigarettes électroniques sont très disponibles, il y a toujours un grand nombre de personnes qui arrêtent sans un coup de tête. Il y a leur enfant qui revient de l'école en disant « Papa, tu sens mauvais de la bouche » ou n'importe quoi. Et du jour au lendemain, les gens s'arrêtent de fumer et s'arrêtent définitivement.
Donc il y a moyen d'arrêter même sans ces substituts.
On peut arrêter brutalement, mais c'est plus difficile, mais il y a une possibilité. C'est pas parce qu'on n'a pas les produits qu'il faut pas s'arrêter de fumer, mais si on a les produits, il faut les utiliser.
Et alors, il y a toujours l'inquiétude sur la nicotine, savoir si c'est dangereux pour la santé. Et vous allez nous dire beaucoup moins que le tabac, c'est ça?
Alors, la nicotine, surtout si elle est apportée de façon douce, c'est infiniment moins dangereux pour la santé que le tabac de façon claire. Le tabac tue la moitié des personnes. Fumer un paquet par jour, c'est une chance sur deux, une chance ou une malchance sur deux d'en mourir. Alors que tous les produits d'arrêt de tabac, quels qu'ils soient, ont une toxicité qui est le millionième ou le milliardième de la toxicité du tabac.
J'imagine qu'il y a plein de patients qui vous disent mais est-ce que c'est pas un truc à me donner si jamais d'un seul coup j'ai une envie impulsive de fumer, que faire ?
Ah ben si, moi mon rôle de médecin quand j'ai tous les médicaments, c'est de supprimer au fumeur l'envie de fumer. Et le rôle de mon patient fumeur, c'est de pas fumer quand il a pas envie. Mais si on est d'accord sur ce principe,
ce postulat,
on arrive. Oui, mais de temps en temps, il y a des gens qui arrivent en soirée parce qu'ils ont un peu bu, parce qu'on leur offre, etc., à fumer sans en avoir envie. Donc la première chose à faire aussi au 1er janvier, on n'offre jamais de tabac. Il faut jamais donner de tabac à quelqu'un. Offrir le tabac, c'est offrir la mort. Donc éventuellement à quelqu'un, un ennemi dur, vous pouvez lui offrir du tabac, mais à quelqu'un que vous aimez, jamais offrir du tabac ou une cigarette.
Modibo, est-ce que ça vous a convaincu ? Est-ce que les conseils donnés par le professeur Dotzenberg vont vous aider ?
Effectivement.
Bon, vous avez une autre question à poser.
J'avais une deuxième question.
Allez-y.
Voilà, c'était de savoir, peut-on fumer pendant combien de temps sans vraiment risque de cancer ou d'autres maladies liées au tabagisme ? Je pose la question, j'ai vu des gens qui commencent à fumer déjà à partir de 6 mois. Ils ont des symptômes, ils ont des toux, ils supportent pas du tout. Mais par contre, il y a d'autres qui fument pendant des années. Franchement, ça, qui est une maladie déclarée. Voilà. Donc, pendant combien de temps on peut fumer sans risque de cancer ou d'autres maladies liées au tabagisme?
Professeur Dotzenberg.
La toxicité du tabac est prouvée avec une bouffée d'une cigarette dans sa vie. Donc déjà, on a un effet toxique. Donc il n'y a pas de limite. Alors quand on prend une bouffée d'une cigarette, c'est très peu toxique. Si on en prend plus, c'est beaucoup plus. Si on regarde en termes de mortalité, par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer à 25 ans, si on calcule sa mortalité à 60 ans, etc., elle est à peu près la même que les autres. Mais il pourra avoir plus de bronchite, plus d'asthme. Par exemple, quelqu'un qui fume a 3 fois plus de chances d'attraper la tuberculose, 3 fois plus de chances d'attraper une pneumonie ou la grippe, ou ce type de maladie. Donc, il y a une interaction entre toutes les maladies. Donc, il n'y a pas de quantité minimale de cigarettes, il n'y a pas de durée minimale. Quand on en prend très peu au début, c'est un peu toxique, beaucoup toxique, énormément toxique. Mais c'est sûr aussi, et ce que vous dites est vrai, qu'il y a des gens qui fument beaucoup et puis qui meurent à 65 ans. Il y a des gens qui roulent sur l'autoroute en contresens et puis qui n'ont pas d'accident. Mais c'est quand même plus dangereux que de rouler dans le bon sens.
Merci beaucoup, en tout cas, Modibo, pour vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on essaie de voir comment arrêter de fumer avec le professeur Bertrand Dotzenberg. On a Aboubacar qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Aboubacar, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Aboubacar.
En fait, moi, c'est plus un témoignage qui est des questions. Hein.
Oui.
J'ai eu la chance dernièrement d'écouter votre émission sur le tabac, je crois le mois de février passé, la journée mondiale contre la santé. Bah voilà.
Pour la santé.
La question, contre moi, le tabac, pour la santé.
Il n'y a pas de recette miracle, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi probablement que notre invité était d'ailleurs le professeur Dotzenberg à cette époque-là, parce qu'en général, c'est souvent vous qu'on invite. Quel a été le déclic, Aboubacar ? Parce que j'imagine qu'on doit vous demander ça autour de vous. Pourquoi d'un seul coup, vous avez réussi à arrêter ?
Non, ben, le déclic, moi je crois que le fait que j'ai appris à travers l'émission tout le mal que la cigarette m'a fait, m'a boosté à respecter ma décision. Tard auparavant, je décidais, mais quelques heures plus tard, je refumais, quoi. Mais selon moi, un fumeur doit mettre dans la balance toutes les maladies que la cigarette apporte et les faux biens que la cigarette lui apporte dans l'autre balance. Il arrivera à la même conclusion que moi, que la cigarette est un destructeur pour lui, quoi.
Ouais.
Donc du coup, ça m'a beaucoup boosté. Sinon, au début, comme j'ai eu à témoigner dans l'émission, j'ai décidé, mais tout de suite, ben voilà, je replongeais, quoi. Mais cette fois-ci, quand j'ai écouté l'émission, ça m'a, avec tout le mal que j'ai appris que la cigarette nous fait, ben, ça m'a beaucoup boosté, quoi.
Professeur Donzenberg, donc ça sert de venir dans Priorité Santé.
Juste la question, quel est votre âge, si c'est pas discret? Quel âge avez-vous, Aboubacar?
Pardon?
Quel âge avez-vous, là?
J'ai 28 ans aujourd'hui.
Ah, 28 ans. D'accord, parce que c'est le raisonnement que vous avez en France. Moi, je l'entends souvent chez les gens de 40, 45 ans, les gens qui deviennent sages, alors que c'est plus rare d'entendre ce raisonnement de sage chez quelqu'un qui a 28 ans. Donc, vous avez 28 ans, vous êtes déjà un sage et capable de peser le pour et le contre et de voir l'avenir et d'avoir fait le tour du problème. C'est quelque chose de bien et quelque chose qu'on acquiert de plus en plus tôt. Mais c'est plutôt après 35 ans d'habitude qu'on a ce type de raisonnement et bravo. Et puis, Claire est très contente que vous ayez arrêté de fumer grâce à son émission.
Oui, c'est ça, exactement. L'impression de servir à quelque chose, le professeur Donzenberg et moi dans ces cas-là. Merci à Aboubacar pour ce témoignage. Justement, professeur Donzenberg, les méfaits du tabac, on a longtemps dit le cancer du poumon, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les maladies cardiovasculaires. Et quand on arrête de fumer, quel est le bénéfice immédiat? Il y a un bénéfice quand même immédiat.
Quand on arrête de fumer, il y a des bénéfices qui vont s'étaler de quelques heures après l'arrêt à quelques années après l'arrêt. C'est-à-dire quand on s'arrête de fumer, le lendemain, on n'a plus de monoxyde de carbone dans le sang, donc on a plus de place dans le sang pour transporter le bon oxygène qui nous permet de vivre. On va retrouver une diminution du risque de faire un infarctus ou de boucher une artère du cerveau en une semaine. En 15 jours, on va retrouver l'odorat, hein, la sensation, le goût qu'on n'avait plus avant. Et après un mois, on va commencer à tousser moins. Donc les bénéfices s'étalent en fait dans le temps, mais certains bénéfices apparaissent dès le lendemain. Et puis la diminution du risque de cancer n'est vraiment constatée qu'après 5 ans, et puis il va s'observer après jusqu'à la fin de la vie.
Mais il y a un bénéfice immédiat, c'est ça qui est important de dire. On a Sié qui nous appelle le Ouagadougou au Burkina Faso. Sié, bonjour.
Bonjour Pierre, donc bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute, Sié.
Allô?
Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui. D'accord. Moi, voici ma situation. J'ai commencé à fumer en 89, en ce temps, j'avais 16 ans. Et j'ai fumé pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai arrêté en 2003. Et là, c'était du coup, j'ai décidé sur place comme ça de ne plus fumer. Et j'avais eu en plus à faire rire mes amis, mais j'ai pu tenir pendant 10 ans. Et en 2013, j'ai recommencé à fumer suite à des problèmes conjugaux. Chaque fois que je m'asseyais, j'ai ruminé les idées noires et je me suis dit pourquoi pas une cigarette, deux cigarettes. Et actuellement, je me retrouve à fumer plus qu'avant. Je vais jusqu'au-delà du paquet par jour. Et finalement, j'ai remarqué que cela joue sur ma libido. J'ai une faiblesse sexuelle. Donc ma question est de savoir, en fait, je veux arrêter de fumer. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il existe une thérapie adaptée à cela ou bien il y a une certaine attitude, un certain comportement mental qu'il faudrait avoir?
Alors, professeur Donzenberg, d'abord, l'impact de la cigarette sur les problèmes d'érection, il y a un lien direct?
Il y a un lien direct, c'est-à-dire que le tabac abîme les vaisseaux les vaisseaux sanguins qui permettent l'érection. Et on observe que chez les gens qui sont impuissants, on a beaucoup plus de fumeurs que ceux qui ne sont pas impuissants, c'est quelque chose de clair. Donc l'industrie du tabac s'est servie en faisant croire que la cigarette, ça faisait séduire, ça rendait glamour et tout ça. Non, ça
c'est
ça
exactement
fait
l'inverse.
Que les femmes sentent mauvais et que les hommes ont du mal à avoir une érection. Donc ça a aucun intérêt pour l'amour.
Et ça,
et en plus, on fait moins de bébés et moins bien.
Et ça, à partir du moment où on arrête de fumer, les problèmes d'érection s'arrêtent aussi.
Alors ça peut s'améliorer, passer le mois ou les deux mois de la période du sevrage.
C'est ça. Si vous restez en ligne avec nous, hein, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Le professeur Donzenberg continuera à répondre à vos questions. Et si vous voulez nous appeler, je vous rappelle le numéro, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment arrêter de fumer, quelles sont les bonnes méthodes. On en parle avec le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, président de l'Office français de prévention du tabagisme. Il a publié récemment l'e-cigarette pour en finir avec le tabac chez XL Éditions. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler, même si vous êtes déjà nombreux à le faire, au 33 1 84 22 75 75. Avant les informations, on était en ligne avec Sié de Ouagadougou, Burkina Faso. Il est toujours là d'ailleurs avec nous. Il avait commencé à fumer assez jeune. Il a arrêté pendant 10 ans et repris suite à des problèmes. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, professeur Dotzenberg, même 10 ans après avoir arrêté, de retomber.
Quand on a arrêté longtemps de fumer, le grand danger de reprise, c'est un moment où l'humeur est très bonne ou très mauvaise, où il y a quelque chose, ça va très bien, c'est l'euphorie. Tout va bien, on a gagné la Coupe d'Afrique de football, où on a sa femme qui vous quitte. Et à ce moment-là...
C'est ça, c'est aussi bien les grands bonheurs que les grands malheurs.
Ça va dans les deux sens. Et donc, il faut être armé quand on a arrêté de fumer. Il faut se dire, si j'ai un événement important qui m'arrive, si j'ai un coup de stress qui m'arrive, ou un grand bonheur, un grand malheur, qu'est-ce que je vais faire d'autre que le tabac pour apaiser un petit peu ce bonheur et ce malheur, parce que c'est quelque chose qui résiste, et ça, c'est vraiment uniquement du travail intellectuel,
mental.
Et dès que c'est prévu, faut y penser avant, c'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer depuis 3 mois, ce soir il y a la fête, on va bien boire, bien s'amuser, bien danser, et tout le monde va fumer, je rentre à la fête et je fume pas, c'est ce qu'on appelle des thérapies cognitives et comportementales, j'anticipe le fait que là, il y a un danger que je fume, si je mets ça au niveau de mon cerveau, de la partie intelligente de mon cerveau, ça va apaiser le besoin et je ne vais plus avoir envie de fumer pendant la fête.
Et si je comprends bien, si vous avez envie de réarrêter de fumer, mais vous avez plus de mal que la première fois, c'est ça?
Oui, j'ai échoué en fait. J'ai échoué parce que je n'ai pas la détermination nécessaire.
C'est plus facile d'arrêter d'abord quand on n'a pas de problème d'alcool. Là, vous disiez que vous avez repris un peu d'alcool. Et le fait d'avoir une alcoolisation rend...
Ça va, les deux vont ensemble, c'est ça?
Moins fortes les décisions. C'est-à-dire, quand on a un niveau de prise d'alcool faible, on arrive mieux à prendre des décisions. Et sinon, chaque fois qu'on arrête de fumer, c'est pas toujours la même histoire. Et quand on est bien, c'est toujours un peu plus facile. Quand on est un paquet, c'est plus facile que quand on est à deux paquets. Donc, l'idéal, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme aide, c'est bien sûr de vous faire aider avec les substituts nicotiniques ou autres, mais même s'il n'y a rien, il faut diminuer un peu et puis fixer une date et à dire cette date j'arrête, et puis les premiers jours faut bien serrer les dents, mais vous serez tellement content après de plus fumer que ça vaut le coup de faire l'effort de passer à l'arrêt.
Et ne pas hésiter à recommencer s'il y a eu échec justement, si jamais d'un seul coup on a décidé d'arrêter de fumer puis ça n'a pas marché, on se décourage, il faut quand même reprendre la décision, c'est ça?
En moyenne, les gens arrêtent 4-5 fois de fumer avant d'y arriver pour de vrai, mais il faut bien différencier deux échecs. L'échec, c'est j'arrive pas à m'arrêter du tout et je continue à fumer. Et puis, il y a plein de gens qui s'arrêtent de fumer pendant 6 mois, qui reprennent après 6 mois, qui disent c'est un échec de l'arrêt. Non, c'est pas un échec de l'arrêt, c'est un succès de l'arrêt et puis une mauvaise prévention de la reprise. Mais c'est un autre événement. Si on a arrêté de fumer plus d'un mois, si on reprend, c'est un autre événement.
Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, Sié, bon courage à vous. On a au téléphone le professeur Alexandre Kouassi-Boko, qui est pneumologue au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Professeur Alexandre Kouassi-Boko, bonjour.
Bonjour, madame.
On était justement en train de parler des substituts nicotiniques. Est-ce qu'ils sont relativement facilement disponibles en Côte d'Ivoire ou pas du tout?
On en trouve rarement. C'est dans une pharmacie que nous trouvons ce médicament. Mais ce médicament n'est pas à la portée de la population parce que ce médicament coûte très cher. Pour la boîte de 7, nous sommes à 30 000 francs, ce qui fait environ 20 euros. Donc, quand vous connaissez la population, alors que le traitement dure pendant 3 mois, et là, c'est vraiment un coût environ 80 000, plus de 100 euros par mois.
Donc ça reste très cher. Professeur Dotzenberg, il n'y a pas des génériques maintenant de tous ces produits nicotiniques?
Comment seulement à prendre des génériques. Ces produits ne sont pas remboursés en France, sont à un prix libre. Et par exemple, en France, on trouve des pharmacies où on peut en avoir 28, donc 4 fois plus pour 30 euros. Donc ça, en fait, c'est 3 fois moins cher en France qu'en Côte d'Ivoire. Donc il faut mener en Côte d'Ivoire avec les pharmaciens, les autorités sanitaires, une offensive pour avoir des substituts nicotiniques 3 fois moins chers. C'est économiquement tout à fait possible pour tout le monde et il faut que vous battiez pour ça comme médecin ou avec les autorités, je ne sais pas comment on peut faire, mais on peut avoir des substituts nicotiniques beaucoup moins chers. En France, c'est assez facile parce que c'est beaucoup moins cher que les cigarettes. Hein. Quelqu'un qui fume en France, il dépense 200 euros, quelqu'un qui s'achète des patchs... Et quelqu'un qui achète des patchs, il dépense 50. Donc c'est 4 fois moins cher. Donc là, on peut pas penser que dans des pays comme la Côte d'Ivoire soit moins cher, mais faut arriver à approcher le prix des cigarettes par tous les moyens nécessaires.
Professeur Kwasi Boko, effectivement, le prix des cigarettes est beaucoup moins élevé en Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement essaie de se mobiliser là-dessus, d'augmenter le prix du tabac? On sait que c'est un des bons moyens pour faire arrêter de fumer.
Oui, enfin, il faut dire que par rapport à la convention cadre qui devait nous amener à augmenter les prix, cette convention n'est pas vraiment adoptée. Ça a été signé au Conseil des ministres le mois passé.
Donc, la Côte d'Ivoire a signé cette convention cadre.
Oui, bien sûr, une convention, nous avons ratifié. Nous avons eu un premier projet de loi pour le Conseil des ministres. Et nous attendons que l'Assemblée nationale ratifie, enfin, le projet de loi de l'Assemblée nationale, afin que ça ne rentre en vigueur. Et j'avoue que nous ne connaissons pas le contenu, mais nous pensons que le contenu prend en compte les prix de la cigarette, qui va donc décourager ceux qui n'ont pas, ceux qui sont modestes, quand même modestes, et ça va permettre donc de réduire le nombre de choses.
Oui, c'est ça. Professeur Dosenberg, juste un mot sur cette convention cadre, elle dit quoi en fait?
C'est une convention cadre, c'est une règle générale, c'est le traité mondial de l'ONU qui est le traité qui est signé par le plus de pays au monde. Il n'y a aucun traité sur rien qui est traité et ratifié par autant de pays que ces conventions cadres. Et c'est une convention contre le tabac parce que les pays du monde se sont aperçus que les cigarettiers menaient une guerre mondiale contre les fumeurs et les non-fumeurs pour piquer leur argent pour s'enrichir, hein, parce que le but des cigarettiers, c'est de piquer l'argent des riches et des pauvres pour s'enrichir. Et donc la convention cadre développe différents aspects sur comment prévenir le tabagisme des jeunes, sur les commerces illicites, sur les relations entre les États et les cigarettiers. Et en particulier, il y a un des points qui est sur la taxation du tabac. Et la convention cadre affirme que l'augmentation des taxes du tabac est le système le plus efficace pour diminuer le tabagisme.
Et en France, ça a été prouvé.
En France, on l'avait bien fait, en sachant qu'on l'avait fait un petit peu trop en 2003-2004, c'est-à-dire qu'on a augmenté quand on augmente de 10-20%, ça va, mais là, en France, on avait quasiment 50% d'augmentation, ce qui a fait des réactions en échange. Moi, je pense qu'il faut augmenter les taxes du tabac de façon à diminuer 10% pour an la consommation, et puis l'année d'après, on vérifie si la consommation a pas assez baissé, on augmente plus les taxes et on règle.
Et ça, mais il faut une augmentation suffisante pour que le consommateur s'en rende compte, c'est ça?
Ah, mais il faut une augmentation forte, et il faut qu'il y ait des discours en disant le tabac, c'est un produit mauvais, on vous taxe parce que c'est un produit mauvais et on va donner l'argent à la santé pour soigner les dégâts que vous causez.
Professeur Alexandre Kwasi Boko, est-ce que les Ivoiriens ont conscience justement des dangers du tabac?
Bien sûr, parce que nous faisons des sensibilisations, mais je pense que les sensibilisations sont un peu timides en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas toujours repris par la presse, il faut une large diffusion des moments de sensibilisation, des sensibilisations que nous faisons, et donc c'est difficile. Alors pour revenir sur les prix, et je pense que la Côte d'Ivoire a une particularité, que d'être dans la sous-région, c'est la même chose, c'est que la cigarette est vendue en détail. Et c'est justement une substance qui est très très moins chère. Vous avez un paquet qui ne coûte pas, je dirais, 3 euros, peut-être 3 à 4 euros le paquet. Donc vous comprenez que n'importe qui peut s'en procurer et fumer.
Oui, c'est ça. Et en plus, la vente de cigarettes au détail qui est redoutable pour faire fumer les jeunes. C'est voilà. Ça, professeur Dosenberg, c'est très mauvais.
C'est mauvais. Et même les paquets de 5, les paquets de 10, par exemple, maintenant en Europe, sont interdits. Il y avait une histoire, la dernière directive était mal rédigée. Il y en a qui sortaient dans les pays des paquets de 19. Et maintenant, c'est 20 qui va être interdit, clairement. On ne peut pas vendre les cigarettes en moins de 20. Et puis, il ne faut pas vendre les cigarettes aux mineurs. Il ne faudrait pas non plus que les mineurs vendent les cigarettes. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, on voit des mineurs qui vendent les cigarettes aussi, c'est, ça donne une mauvaise image. Une image, le tabac, c'est ce qui permet de s'enrichir, de faire de l'argent. Non, le tabac, ça vous ruine la santé et le portefeuille.
Et le portefeuille, c'est important de le dire. Professeur Kwasi Boko, la consommation de tabac en Côte d'Ivoire continue à augmenter. Est-ce que c'est la même chose que chez nous, particulièrement chez les femmes?
Oui, je pense que la consommation augmente chez les femmes. Parce que nous avons eu une étude en 2000 qui avait bien montré que le tabagisme était de l'ordre de 5%. Et dès 2009, nous avons refait l'étude. Et nous sommes à 13,6%. C'est-à-dire que le tabagisme de la femme ne cesse d'augmenter. De même, chez l'homme, il est, dans la population générale, nous sommes passés aux alentours de 35 à 40% dans la population à Biamis.
Professeur Dosenberg, en France, la consommation baisse, mais pas chez les femmes, hein, c'est ça, en fait, en gros?
Malheureusement, en France, on mesure la consommation de tabac tous les 5 ans et on attend toujours depuis 6 mois les derniers résultats. Ce qui a été publié, c'est qu'il y avait une augmentation de la consommation de tabac, en particulier chez les femmes, en particulier parce qu'on remplaçait les femmes de 40 et 55 ans qui avant ne fumaient pas par des générations de fumeuses. Mon impression quand on regarde ce qui se passe chez les jeunes, c'est qu'on est stable ou plutôt en légère diminution et j'espère que les chiffres qu'on va probablement à avoir en ce début d'année quand même en France, vont montrer une petite diminution du tabagisme. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a le phénomène nouveau de la cigarette électronique qui quand même diminue pas mal les ventes de cigarettes au profit du vapotage. Et on ne sait pas très bien comment on va prendre en compte ces nouveaux éléments. Mais le tabac, c'est ringard. Et si ça augmente en Afrique, c'est que les cigarettiers arrivent toujours à faire croire à certains que c'est un bon produit, alors que c'est un produit ringard de ringard. Et il faut vraiment donner les moyens à...
Et vous demandez qu'il y ait finalement un état des lieux tous les ans du nombre de fumeurs pour savoir si ça augmente ou si ça diminue, mais comme on le fait pour les accidents de la route, par exemple.
Oui, si on mesure quelque chose, alors on prend on peut adapter sa politique en fonction de ça. Et donc d'avoir, là vous me dites que vous avez fait en Côte d'Ivoire une mesure en 2010, une mesure maintenant, c'est un peu espacé. Il faudrait aussi taxer l'industrie du tabac, leur prendre des sous pour faire tous les ans une mesure indépendante, par exemple, du taux de fumeurs et puis les campagnes de prévention. C'est ce qu'on essaye de faire en France, d'avoir une taxe spécifique sur l'industrie du tabac qui permet de faire de la prévention et des mesures du tabac.
Professeur Kwasi Boko, juste une dernière question. Est-ce qu'on voit apparaître des cigarettes électroniques sur le marché ivoirien?
Non, jusque-là, je n'en ai pas vu. Ça n'existe pas encore dans notre pays.
Ça n'existe pas encore. Merci beaucoup d'être intervenu, professeur Kwasi Boko. Professeur Dotzenberg, au début, vous étiez assez frileux sur cette cigarette électronique et vous êtes en train de constater que c'est en fait un bon moyen d'arrêter de fumer, finalement.
Non, la cigarette électronique, c'est un bon moyen de sortir du tabac et surtout pour les gens qui n'ont pas tellement envie d'arrêter de fumer. C'est-à-dire, quand on veut avoir un sevrage tabagique, les méthodes classiques sont la meilleure méthode. En revanche, chez quelqu'un qui n'est pas motivé ou qui veut pas faire l'effort, moi, je les encourage beaucoup à essayer. J'encourageais mes passants à se faire offrir pour Noël la cigarette électronique et d'aller au moins la cigarette elle-même et puis d'aller après chez les marchands pour choisir le bon liquide qui fait bien plaisir. Parce que si on arrive à avoir avec la cigarette électronique le produit qui vous fait plaisir quand on est un fumeur, on quitte assez facilement le tabac. Si c'est pas bon, si ça a pas de bon goût, si ça vous fait pas comme il faut au niveau de la gorge, alors on le prend pas. Donc c'est un moyen de sortie du tabac potentiel, mais c'est un produit qui est quand même un peu toxique, et c'est uniquement pour les fumeurs, où c'est beaucoup, beaucoup moins toxique que le tabac, mais jamais, jamais de cigarette électronique pour un non-fumeur ou pour quelqu'un qui a arrêté depuis 5 ans.
J'entends beaucoup dans les couloirs, si vous voulez tout savoir, de RFI, dire que finalement la cigarette électronique, c'est pas bon, ça n'a pas un bon goût. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut essayer de trouver le produit qui a le goût qui correspond à chacun.
Quand je pose mes questions les malades à l'hôpital, est-ce que la première bouffée au bout de 5 secondes, vous trouvez ça très bien ou pas bien, moyennement bien? Tous ceux qui trouvent qu'elle était très bien, continuent la cigarette électronique, arrêtent le tabac. Tous ceux qui trouvent que c'était moyen prennent les deux, et ceux qui trouvent que c'était pas bon jettent la cigarette électronique. Les deux tiers des gens qui essaient la cigarette électronique ne l'utilisent pas parce qu'ils choisissent pas le goût qui leur plaît. Et chacun a un goût un petit peu différent. Il y a des gens qui aiment le.
Et ceux qui continuent à fumer avec la cigarette électronique, qu'est-ce que vous dites là? Ça a aucun intérêt, c'est ça?
Ça a aucun intérêt. Donc ceux qui fument avec la cigarette électronique, il faut leur faire arrêter de fumer. Et donc on leur met un patch en plus, ou faut qu'ils vapotent plus de façon à plus fumer. Chaque cigarette donne envie de fumer la suivante. un apport régulier de nicotine, comme peut en apporter la cigarette électronique, calme le manque sans augmenter l'envie.
On a Ced qui nous appelle d'Abéché au Tchad. Ced, bonjour.
Bonjour, Claire. Bonjour, professeur.
Oui, vous êtes bonjour. En direct dans Priorité Santé, on vous écoute.
Ok, moi, je ne suis pas trop exposé à la fumée des cigarettes.
Oui.
Okay, à la maison, au fumé.
Alors, on ne vous entend pas très bien, Ced. Je crois que vous avez beaucoup d'amis fumeurs, mais vous ne fumez pas, c'est ça?
Oui, et j'aimerais savoir les conséquences sur ma santé.
Voilà, c'est ça. Les conséquences du non-fumeur qui est entouré de fumeurs sur la santé, tout ce qu'on appelle le tabagisme passif.
Alors, si on fume vraiment en plein air, à tout vent, le risque est faible. Si on fume dans un lieu clos ou presque clos, même si les fenêtres sont ouvertes, une voiture avec une fenêtre ouverte, par exemple, là, il y a une pollution considérable. Un fumeur qui tire sur une cigarette dans une voiture, par exemple, va prendre un milliard de particules qui va inhaler, mais va en laisser 5 milliards s'échapper dans la voiture, que tout le monde va respirer. Et en gros, on a vu, par exemple, dans les boîtes de nuit de Paris, quand on fumait toujours, quelqu'un qui rentrait dans une boîte de nuit, en restant une heure dans une boîte de nuit, c'est comme s'il avait fumé 6 cigarettes. Donc ça, on arrive à polluer de façon colossale en fonction de l'intensité du tabagisme. Donc faut pas accepter de se laisser polluer par les autres. Et faut demander aux autres de pas fumer. Alors il faut le faire avec intelligence. Mais si les gens veulent se tuer, c'est une chose. S'ils veulent tuer les autres, c'est gênant. Et en général, la plupart des fumeurs, ils sont généreux. Et si on leur explique gentiment, ils arrivent à quand même aller fumer plus loin, à se retenir et à pas vous enfumer. Donc ne vous laissez pas enfumer, menez la bagarre contre les fumeurs, contre le tabac, parce que cette bagarre contre le tabac est une bagarre en fait pour les fumeurs et pas contre le fumeur. Le fumeur qui sait qu'il pollue, il fume moins.
Mais ça c'est nettement plus facile quand il y a une loi qui encadre, qui interdit de fumer dans les bureaux par exemple, qui interdit de fumer dans les restaurants.
C'est plus simple comme une loi qui encadre, mais pour que la loi soit efficace, faut que les gens aient bien compris que le tabagisme passif peut tuer rapidement. Quelqu'un qui est cardiaque, qui va dans un milieu très enfumé, peut mourir dans l'heure. Hein. C'est pas 15 ans après d'un cancer. Donc le tabac tue, et le tabagisme passif peut tuer tout de suite. Et les plus sensibles, c'est les nourrissons, les petits-enfants. Faut jamais, jamais fumer dans une pièce où il y a des enfants. Et faut aérer la pièce au moins pendant 2 heures avant qu'un enfant puisse rentrer.
Merci beaucoup, Ced, pour ce témoignage. Quand vous veniez à la maison de la radio, professeur Dosenberg, vous étiez toujours étonné dans les escaliers de trouver des mégots de cigarettes. Vous avez remarqué que là, il n'y en a pas, quand même?
Là, il n'y a plus de mégots de cigarettes. On a même enlevé l'amiante de la maison de la radio. Donc, on progresse.
Il y a beaucoup de progrès. On a Alain Roger qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Alain Roger, bonjour.
Oui, bonjour madame. Effectivement, je vous appelle depuis Pointe-Noire.
Ouh là là, la ligne, elle n'est pas bonne. Hein. Parlez bien fort parce que la ligne téléphonique n'est pas bonne.
Madame?
Oui, voilà, la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise. Donc, parlez bien fort pour qu'on vous entende.
Allô?
Ah oui, on vous écoute, Alain Roger, allez-y.
Ah oui, oui, en fait, ça dit qu'auparavant, je fumais. Et du coup, donc, j'avais arrêté de fumer. Et maintenant, je frise le tabac, je ne sais pas. Et à quelles conséquences, quoi, pour la santé?
C'est ça, vous avez arrêté la cigarette, mais vous prisez, en fait, ce qu'on appelle avec les narines. Quels sont les méfaits dans ces cas-là, professeur Dosenberg?
C'est quelque chose de moins connu, ça dépend de la forme de ce qu'on prise, si on a de la poudre ou du tabac seulement haché qu'on met dans les narines. Il y a un passage de nicotine qui est certain, il y a une irritation du nez qui est tout à fait certaine, donc c'est a priori un peu moins mauvais que le tabac à fumer, mais beaucoup plus mauvais que de rien prendre, et c'est clairement quand même la traduction d'une dépendance à la nicotine. Et un jour, vous allez avoir tellement mal au nez, enfin des ennuis au niveau du nez, que vous allez vous arrêter, j'espère. Donc je vous souhaite d'attraper un bon rhume qui vous dégoûte de priser pendant 15 jours. Et après le rhume, ne plus reprendre.
C'est ça, c'est pas conseillé hein, quand même, c'est pas bon.
Non, c'est pas. Toute forme de tabac est mauvaise, toutes les formes de tabac, même celles qui sont prétendues inoffensives, tuent, hein, que ce soit le narguilet, que ce soit le tabac mâché, que ce soit le tabac à priser, etc.
On va prendre une dernière question avec Issou qui nous appelle de Niamey au Niger. Issou, bonjour. Issou, bonjour, vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, Issou.
J'essaie de vous avoir passé la parole et vous souhaiter une bonne année 2015.
Merci, bonne année à vous aussi.
Oh, merci. J'ai 27 ans. Depuis mes 19 ans, je fumais une dizaine de cigarettes par jour. Ah, cette année, j'ai été hospitalisé pour un palier grave. Mon médecin m'a conseillé de cesser de fumer la cigarette et de cesser de prendre du café. Tout à coup, j'ai tout arrêté. D'un coup, mais depuis, je suis toujours fatigué et moralement, j'ai des nausées et je n'ai pas d'appétit. Donc ma question est la suivante, j'aimerais savoir si ça a un lien avec l'arrêt brusque de fumer la cigarette.
Professeur Dotzenberg.
Alors, quand on arrête de fumer, quand on est bien portant, il y a pendant les 15 premiers jours, et ça peut durer un mois et demi, des fois une fatigue ou au contraire une euphorie, on se sent en pleine forme. Ce qui est sûr, c'est qu'après 2 mois, 3 mois, on se retrouve mieux qu'avant. Mais dans votre cas aussi, vous avez fait un paludisme grave et c'est peut-être aussi les conséquences de votre maladie grave qui a donné ça. Donc, arrêter de fumer ne fatigue pas. Et fumer ne donne pas de la force. Fumer, ça rend poussif, ça donne pas de la force. Et il n'y a pas de lien avec ça. Mais au moment de l'arrêt, quand on a un arrêt brutal, il peut y avoir, pendant les premières semaines surtout, et un petit peu pendant les 2 premiers mois ou 3 premiers mois, des petites sautes d'humeur en plus, en moins. Mais 3 mois après, les statistiques sont formelles, ça va mieux. Arrêter de fumer diminue la dépression, diminue le stress, diminue l'anxiété et vous allez être mieux après. Ne recommencez jamais, jamais, jamais.
C'est ça qui est important. Parce qu'on a eu énormément de messages d'auditeurs qui nous disent « j'ai arrêté de fumer suite au conseil de l'émission ». Donc, professeur Dotzenberg, comme quoi ça sert, tous les conseils que vous répétez. Je voulais vous faire part juste d'un message de Francis Abidjan qui dit « j'ai arrêté de fumer il y a déjà pas mal de temps parce qu'on m'avait surnommé Mégo Mégo et suite à une dispute avec des amis qui m'avaient dit que je n'arriverais jamais à arrêter, j'ai eu honte et j'ai voulu relever le défi et puis j'en avais marre en gros qu'on me dise que je sentais pas bon. C'est vrai qu'il y a une odeur du fumeur qui est pas agréable.
Le fumeur sent mauvais mais il s'en rend pas compte et c'est après quand le fumeur qui a arrêté de fumer, beaucoup quand ils rentrent dans une pièce où il y a un fumeur, trouvent que ça pue, que c'est dégueulasse et ils ne comprennent pas comment ils ont pu fumer avant. Et là, dans l'exemple de Mégo Mégo, c'est quelque chose qui arrive. Quelqu'un qui lance un défi et qui est très fier de lui et qui dit « t'es pas cap et j'y arrive », ça c'est quelque chose qu'on peut lancer comme défi aux fumeurs pour voir s'ils sont capables d'arrêter un jour ou une semaine, hein, de faire l'expérience d'arrêter un jour ou une semaine aussi est une bonne expérience. On voit si on est vraiment dépendant ou pas.
Et pour terminer, on va retrouver donc une nouvelle chronique nutrition avec Stéphane Besançon.
Priorité santé sur RFI.
Stéphane Besançon, bonjour. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bamako au Mali. Vous êtes directeur général de l'association Santé Diabète. On vous a déjà d'ailleurs entendu plusieurs fois dans Priorité Santé nous parler du diabète. Et on va vous retrouver maintenant tous les lundis pour une chronique sur des conseils de nutrition. J'allais dire pourquoi un rendez-vous sur la nutrition, pourquoi c'est si important?
Mais je dirais qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la nutrition en Afrique. Qu'est-ce que la transition nutritionnelle? Comment manger moins gras? Qu'est-ce qu'un repas équilibré? Comment manger moins salé? Et c'est autant de questions qui sont assez peu posées, auxquelles je vais tenter de répondre avec vous afin d'apporter une vision un peu plus juste et plus proche des questionnements quotidiens des auditeurs sur la nutrition en Afrique. Parce qu'on sait depuis de nombreuses années, quand on parle de nutrition et d'Afrique, c'est à la fois la faute aux médias, aux organisations non gouvernementales, aux agences onusiennes. On parle quasiment que de malnutrition par carence et plus générativement de sous-nutrition. Or, on sait aujourd'hui que le continent connaît une urbanisation importante qui entraîne des profonds changements de mode de vie. On parle beaucoup de sédentarité qui augmente. On parle aussi énormément de profonds changements des habitudes alimentaires. Donc à travers cette chronique hebdomadaire, on va essayer de réinterroger des thématiques aussi diverses qu'essentielles qui tournent autour de l'alimentation équilibrée, la transition entre une alimentation traditionnelle et une alimentation dite occidentalisée, l'utilisation des aliments transformés industriellement, beaucoup de questions que se posent aujourd'hui les auditeurs dans les différents pays africains qui vous écoutent. Mais on pourra aussi de temps en temps aller vers l'alimentation et le poids et enfin l'alimentation en cas de maladie, que ce soit pour le diabète ou l'hypertension par exemple. Donc semaine après semaine, on va essayer d'alterner des chroniques pour comprendre la nutrition tout en proposant des conseils pour répondre aux interrogations des auditeurs. En alternant entre des notions techniques, comme nos prochaines chroniques qui sont consacrées à ce que sont les lipides, les glucides, les protéines, mais aussi en explorant leur rôle et les aliments qui les contiennent pour pouvoir proposer des conseils plus pratiques, des recettes ou des connaissances, on dira, autour d'aliments parfois, comme par exemple l'huile de palme, auquel il y a beaucoup, beaucoup de croyances autour de l'huile de palme, ou le fognon, qui est une céréale qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest.
Et on espère bien que vous allez nous donner d'ailleurs des bonnes recettes très régulièrement tous les lundis. Est-ce que vous auriez d'ailleurs juste, en quelques secondes, un premier conseil à nous donner pour démarrer cette chronique nutrition ?
Je pense que la chose très très importante, c'est qu'on verra dans les prochaines semaines toutes les notions qui sont liées à la composition qualitative des plats, comment mieux préparer, comment manger moins gras, moins salé. Mais déjà dans un premier temps, le premier conseil, c'est de respecter aussi un rythme structuré de la journée alimentaire. De ce qu'on mange dans les repas est important, mais comment on mange aussi au cours d'une journée est extrêmement important. Avec un petit déjeuner, pris plutôt à la maison pour contrôler le contenu, un bon petit déjeuner, un repas le midi et un dîner le soir un peu plus léger en limitant au maximum les grignotages entre les repas. Ce sera pour ce début d'année, le premier conseil, c'est de structurer aussi sa journée alimentaire.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. On retrouvera votre chronique sur le blog de notre émission, aussi sur votre site internet Santé Diabète. Demain, on parlera de l'albinisme. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions au 33 1 84 22 75 75. Professeur de Zandberg, merci beaucoup d'être venu. On va tous arrêter de fumer. À bientôt.
Win 2015, c'est une bonne année pour arrêter.